vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page du Pont des Artistes. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Vieux matin de nuit blanche.
France Inter,
la différence.
Il est 15h04, on retrouve là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Alors on est dimanche matin, je suis en train de prendre mon petit déjeuner, j'écoute les infos, et qu'est-ce que j'entends? Nicolas Sarkozy qui se présente comme le candidat du peuple. Non, trop fort. Trop fort, Nicolas Sarkozy, candidat du peuple. Oh non, un dimanche matin, trop fort.
Salut Daniel et salut les AMG. Ce matin, les ouvriers de Florange ont pris place, j'ai envie de dire, dans les locaux de la direction pour manifester leur mécontentement suite à une prolongation des arrêts des hauts fourneaux. Florange, Gandrange, c'est quand même une drôle de série noire pour tous ces ouvriers de Lorraine que je soutiens, car je suis moi-même lorrain. Et c'est aussi une triste histoire pour notre ami Sarkozy qui est au pouvoir maintenant depuis 5 ans et qui a laissé tomber tous ses ouvriers. Voilà. La France est un pays de travailleurs, sauf qu'on écrase les ouvriers aujourd'hui. Bon courage en tout cas à ces ouvriers lorrains et j'espère que ça va redémarrer pour eux. Ouais. Allez, ciao Daniel.
C'est pour les couches tard, ce soir sur France 3, 23h55, un crime français. La vie et la fin de vie de Jean Zay, si peu évoqué. Il a été pourtant ministre de l'Éducation nationale pendant le Front populaire. Un grand intellectuel polyvalent. Marie-Paul, au revoir.
Bonjour. Des nouvelles aussi réjouissantes que brèves venant de Grèce. Un hôpital grec, un quotidien, un grand quotidien d'Athènes, entièrement en autogestion. Hein, pour l'hôpital, je vous lis le début de l'article. Les travailleurs hospitaliers de Kilkis, ville du nord de la Grèce, ont occupé leur hôpital et proclamé que celui-ci est désormais sous contrôle ouvrier. Les déclarations de leur assemblée générale sont d'une grande portée politique. Dans une veine profondément autogestionnaire, elle conteste le caractère démocratique du pouvoir en place, préconise l'autogouvernement et défend l'utilité sociale du travail. Donc il y a tout un article et c'est vraiment très encourageant parce qu'ils appellent évidemment les autres hôpitaux à faire de même puisque ces gens-là n'étaient plus du tout payés. Donc également un grand journal, un quotidien. Et je pense que ce n'est pas fini. Merci pour les émissions sur la Hongrie, Daniel, et salut à toute l'équipe.
Bonjour à tous, Florent de Besançon. C'est incroyable quand même comme les libéraux arrivent à convaincre les Français que des mesures destinées à une minorité de privilégiés sont réalisées dans l'intérêt général et surtout s'adressent à des gens qui jamais ne pourront en bénéficier. Tiens, prenons par exemple l'ISF. Le seuil de déclenchement, c'est 1 200 000 euros. Personnellement, je connais personne dans mon entourage, amis, voisins, famille, qui possède un capital de 1 200 000 euros. Vous réalisez que ça fait quand même 1 200 000 euros. Prenez les petites annonces, regardez le prix d'un appartement, puis regardez combien d'appartements vous pouvez acheter avec. Alors moi, finalement, j'ai décidé pour cette année 2012 de renverser l'intendance et puis d'être redevable de l'ISF. Après tout, moi aussi. Alors j'ai trouvé une maison à 1 200 000 euros, j'emprunte sur 20 ans, toc toc toc, taux de 4%, toc toc toc, et voilà, mensualité, 7 200 euros pour dans 20 ans pouvoir toucher l'ISF. Et là, je rigole parce que 7 200 euros, c'est 3 fois mon salaire. Allez, salut.
Bonjour Daniel, c'est à nouveau Daniel de Paris, donc c'est moi qui avais laissé ce message sur mon père. Donc je voulais remercier l'auditrice pour ce magnifique poème de Miklós Radnoti, qui est un de mes poètes préférés depuis très très longtemps. Je voulais aussi rajouter sur mon père, parce que la poésie était probablement le plus bel hommage qu'on pouvait lui rendre, parce que c'est une chose qu'il avait toujours adoré, qu'il avait toujours adoré les poètes hongrois, et même plus que ça. Et justement, tu parlais de Józef Attila la dernière fois, et quand il a quitté la Hongrie, l'une des seules choses qu'il avait sur lui et qu'il a gardé jusqu'à la fin de sa vie, c'était un recueil de poèmes justement de Józef Attila. Voilà, je vous remercie encore. Au revoir.
Salut Daniel, merci pour tes émissions. J'ai pas encore entendu celle que tu as consacrée à la Hongrie, mais il y a environ 10 ans, moi, je suis passé à Budapest, et quand je me promène dans une ville, je prête beaucoup d'attention au graffiti, à l'affichage libre, et surtout ce qui est trait à la politique. Et j'avais été très très frappé à cette époque-là par tout ce qui avait trait à la Grande Hongrie. Alors, je comprends strictement rien au hongrois, mais les cartes, les dessins étaient clairs. C'était une Hongrie qui s'étendait sur la moitié de la Roumanie et encore des bouts. Au-dessus, en bas, je ne sais plus très bien comment. Enfin, c'est les restes, enfin la marque du traité de Trianon, etc. Je suppose que tu en as parlé ou que tu vas en parler. Ça a laissé des traces. Et à cette époque-là, moi j'avais eu cette impression-là, c'est que devant les grandes difficultés du peuple hongrois à cette époque, il avait deux options. Ce repli nationaliste, identitaire, avec potentiellement une guerre de conquête au bout, enfin peut-être un peu fantasmé, mais quelque chose à la Grande Serbie ou je sais pas quoi, hein, Milosevic. Ou alors l'ouverture sur l'Union européenne, qui était à ce moment-là en discussion, et qui semblait comme ça diviser un petit peu la société entre donc la droite et la gauche, comme j'ai cru comprendre que tu voulais le dire. Et c'est l'Union européenne, c'est l'adhésion à l'Union européenne qui l'a emporté. Moi, je n'y suis pas retourné depuis, donc apparemment, en dépit de ça, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Et cette Union européenne, elle n'a pas su apporter la perspective, probablement, que ces gens, ils attendaient pour passer par-dessus les difficultés qu'ils ont eues, aussi bien politiques qu'économiques. Et maintenant, la situation, elle est vraiment pas très, très positive. Et c'est très dommage, je pense. Parce qu'il y avait un espoir, je pense, du peuple hongrois, en adhérant à l'Union européenne, de pouvoir passer par là-dessus et aller vers quelque chose de mieux. Mais l'Union européenne, aujourd'hui, on le sait bien, nous, en France, depuis plus longtemps, on aurait pu leur dire qu'elle offre pas de perspective.
Voilà, et ben bravo. C'est ce qu'on a ressenti et qu'on nous a dit et qu'on a compris au cours de ce voyage et ces reportages en Hongrie, à Budapest et en Hongrie, c'est bel et bien ça. C'est que l'espoir qui avait été placé par les Hongrois dans l'Union européenne, pas seulement au point de vue changement de vie, ouverture économique, consommation, etc., mais aussi dépasser les clivages et les enfermements divers et variés de nature, disons, ethnique, ça n'a pas du tout été le cas. Et c'est effectivement, au fur et à mesure que grandissait la déception face à l'Union européenne, face à l'ouverture, au néolibéralisme, qu'effectivement, dès 98-2002, le premier gouvernement de Viktor Orban, dès ce moment-là, il a pu lui-même aller sur ces thèmes d'identitaire, de repli nationaliste, etc. Et c'est ce qui s'est développé, qui est en train de se développer actuellement, de s'installer en Hongrie actuellement. Et l'Union européenne, l'Europe, n'a pas été pour l'instant capable de permettre à la majorité des Hongrois, ni une intégration économique, un équilibre social à peu près possible, ni non plus de dépasser effectivement ces divisions culturelles, disons. Voilà, c'est bien vu. Merci à vous. On continue aujourd'hui le voyage en Hongrie. La Hongrie en marche arrière. On est surpris de l'intérêt des messages que nous recevons. Très, très intéressant et très avif. Hein. Il y a ceux qui trouvent ça formidable et puis d'autres qui disent non. C'est intéressant, ça vous intéresse. On sent bien qu'il y a de l'intérêt de la part des amis hongrois, francophones ou d'origine hongroise qui vivent en France, mais ça dépasse ce cercle-là. Et aujourd'hui, j'ai sous les yeux quand même des chiffres assez extraordinaires concernant, vous savez ce que c'est l'ostalgie. Ostalgie, ça veut dire la nostalgie de l'Est. C'est en allemand. Vous vous souvenez du film Goodbye Lenin et tout. C'était. Il y a eu tout un culte qui continue d'ailleurs en Allemagne sur la Trabant, sur ces années-là. Alors on a dit oh bah oui, m'a tout fait nostalgie. Voilà, il suffit d'arriver à 40 ans pour qu'on trouve que l'adolescence était un moment formidable et la jeunesse un moment formidable. Mais il semblerait bien que ça dépasse ça dépasse ce phénomène très classique. Hormis les Polonais et les Tchèques, qui estiment que la situation économique, leur situation économique, est meilleure aujourd'hui que sous le communisme. Les autres peuples sont d'un avis contraire. Et ça, c'est selon le Pew Research Center. Et en Hongrie, c'est jusqu'à 72% de la population qui regrette les années du communisme et du socialisme. Et ça, c'est des chiffres qui ont déjà quelques temps, qui ont déjà 5 ans. Donc aujourd'hui, la crise économique s'aggravant, la situation de la population, je vous rappelle que c'est un tiers de la population hongroise qui vit en dessous du seuil de pauvreté, dont 1 million en très grande pauvreté, sur 10 millions d'habitants à peu près. C'est un chiffre qui donne une idée de des difficultés du marasme social et économique du pays. Donc voilà, il y a plus de 70% des Hongrois qui regrettent le temps d'avant. Alors bien sûr, encore une fois, il y a l'effet nostalgie, mais il n'y a pas que ça. Et c'est dans ce regard en arrière qu'on va se promener, le mot n'est pas très bien choisi, aller, explorer. Aujourd'hui, on va passer cette heure en tout cas. Encore quelques messages auparavant, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Le mardi 21 février à 18h, il y a un rassemblement à l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot, métro Assemblée nationale, parce que le gouvernement soumet en catimini à l'Assemblée nationale un projet de loi de ratification du traité européen instituant un mécanisme européen de stabilité, c'est-à-dire pour imposer la dictature de l'Union européenne. Ce traité MES, s'il est signé, c'est la voie à un déferlement de mesures anti-ouvrières et à la destruction de toutes les conquêtes sociales. Plus il y aura de monde, mieux ça vaudra. Il ne faut pas se laisser faire. Au revoir.
Enfin, à Limoges, à l'initiative de Mémoire à Vif et pour une unique séance, projection mardi 21 février au cinéma Le Lido à 20h, des nouveaux chiens de garde, en présence de Gilles Balbastre. 1h40 de bonheur, antidote indispensable en cette période préélectorale pour nous prémunir contre la manipulation et l'intox des médias officiels. AMG du Limousin, on compte sur vous.
Violon, c'est Lajos Sarkozy. C'est en ce moment Lajos Sarkozy qui nous joue du violon. C'est pas une blague, hein. On est vraiment dans le restaurant Carpathia et en face de nous, Lajos Sarkozy et son orchestre nous jouent une chanson.
Ce que je disais, c'est que cet aspect-là du socialisme, cette politique éducative, il faut absolument, je ne dis pas qu'il faut tout reproduire tel que c'était à l'époque, mais je pense qu'il y a eu plein de bonnes choses de fait.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao, la Hongrie en marche arrière.
Flight number 2, arriving from New York.
On arrive à Csepel.
C'est un quartier très ouvrier, très industriel. Et pendant... Enfin, toujours un mouvement ouvrier assez fort, mais ça pouvait être à gauche et ça pouvait être à droite aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des mouvements fascistes très importants ici. Mais il y avait des mouvements social-démocrates aussi, les syndicats social-démocrates sont bien implantés aussi. Et que pendant l'époque socialiste, évidemment, on a fait développer encore l'habitat, l'industrie et tout. Alors que là, maintenant, tout est effondré. Mais effondré. En fait, le port industriel de toute la ville de Budapest, c'est à Csepel. Port fluvial, bien sûr.
Une forêt de cheminée, là, à gauche.
Là, c'est la zone industrielle à gauche que tu veux nous montrer.
Il y a une arche, là, avec écrit en rouge, avec des écussons, Csepel, Müvek.
C'est la grande usine.
Ah oui, elle se présente bien. Il y a déjà des rails en pagaille. Ah oui, c'est vraiment le dispositif industriel.
Il y a des ponts roulants complètement rouillés.
On pourrait être en Lorraine, on pourrait être dans le nord industriel de la France, on pourrait être dans le nord des États-Unis et même dans le nord de la Chine. C'est dans tous ces paysages de friches industrielles que nous connaissons depuis longtemps, qui nous sont devenus familiers. Là, l'île de Csepel, c'est un quartier de Budapest. C'est un quartier qui a été vraiment la production industrielle de cette ville. Aujourd'hui, c'est mort en grande partie. Il y a encore un peu d'activité quand même, mais très très peu. Et puis alors là, c'est un dimanche idéal pour ce genre de décor. Il fait gris, il n'y a personne, il fait un peu froid. Enfin, c'est une sorte de perfection dans l'ambiance générale. Et ça a été un quartier populaire important, comme vient de le dire notre amie Judith. On est associé avec notre amie Catherine. Et c'est là qu'on va se balader. Mais je voudrais dire auparavant quelques mots quand même pour situer un peu toute cette histoire. Parce que parmi ceux que nous avons rencontrés en Hongrie, et parmi les messages qui nous parviennent, il y a une sorte d'agacement de pas mal de Hongrois devant l'image qui est donnée de leur pays depuis quelques mois, notamment dans les médias français. On est considéré un peu comme les donneurs de leçons. Alors, il faut peut-être prendre quelques instants, c'est ce que je vais faire, pour se replacer dans le fil de l'histoire de ces 20 dernières années, et même remonter jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après que l'armée rouge ait vaincu l'armée allemande, l'Union soviétique met en place un pouvoir communiste en Hongrie, un pouvoir très dur, très stalinien, jusqu'en 1956. Et là, 1956, c'est l'insurrection populaire, les Hongrois veulent des réformes et vous savez comment ça finit. Les soviétiques envoient les chars, il y aura près de 3000 morts, 200 000 Hongrois quittent le pays, et ça, on en parlera dans un prochain sujet, demain ou après-demain. Mais en fait, la contestation et la dissidence continuent malgré cet écrasement de la révolte, si bien que le pouvoir doit faire des concessions. Et en 1968, János Kádár, qui est le leader hongrois, se voit obligé d'adoucir le régime avec une économie plus ouverte. Et c'est à ce moment-là que commence ce qu'on appellera le socialisme du goulash. Et c'est à ce moment-là que naîtra la fameuse expression « La Hongrie est la baraque la plus gaie du camp ». Alors bien sûr, la baraque la plus gaie du camp, mais enfin il y a quand même le camp, il y a la censure, la bureaucratie, la médiocrité ambiante, l'hypocrisie ambiante, mais il y a le plein emploi, il y a la santé gratuite, il y a les retraites, il y a l'éducation, la scolarité, les loisirs, le logement, tout ça, tout le monde peut en profiter. En fait, la Hongrie de ces années-là, c'est une sorte d'état-providence très conservateur, un état très conservateur, très réac au niveau des mœurs et des libertés individuelles et de la liberté d'expression, mais c'est quand même ça, et c'est ça qu'aujourd'hui, la majorité des Hongrois regrettent, qu'ils l'aient vécu ou non. Mais voilà, c'est paix sociale, elle a un prix. Et la dette publique se creuse à l'époque. Et pour éviter la crise, dès 1982, le régime se tourne vers le FMI, vers le Fonds monétaire international. Et c'est là que commence le début des privatisations au nom des plans d'ajustement structurel. La nomenclatura qui tient les clés de l'État va vendre tout. Petit à petit, tous les bijoux de famille vont être vendus aux multinationales, les investissements arrivent, les élites politiques en profitent évidemment largement au passage. Et ça, ça ne se passe pas évidemment seulement en Hongrie. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Russie, par exemple. Et au fur et à mesure, eh bien, la vie de la majorité des Hongrois commence peu à peu à se dégrader, malgré l'espoir, malgré l'illusion, disons, l'espoir et l'illusion créée par le changement en 1989. C'est la grande euphorie ultralibérale, consommation, paillettes, crédit. Et en 1998, le très anticommuniste Viktor Orban prend la tête du gouvernement. Et c'est là, ce que disait l'auditeur tout à l'heure dans son message, c'est là qu'il rallume la flamme du nationalisme hongrois. C'est là qu'il réveille les blessures de l'histoire. C'est là qu'il réveille 1920, Trianon, amputation de la grande Hongrie, et pour Orban, il y a les vrais Hongrois, c'est-à-dire ceux qui votent pour lui, et puis les autres, ceux qui ont collaboré avec les communistes et ceux qui bradent le pays aux Occidentaux. Il perd de peu les élections de 2002 et il laisse la place à ses pires ennemis qui sont les socialistes. En 2004, il faut le rappeler, la Hongrie intègre l'Union européenne. Et il faut évoquer là un personnage très important qui sera le Premier ministre Ferenc Gyurcsány, qui est un ex des jeunesses communistes, qui est devenu un homme d'affaires très riche et très ultra-libéral. Et il y aura cette séquence assez extraordinaire en septembre 2006, lors d'une conférence privée avec les membres de son gouvernement. Ferenc Gyurcsány dira « Oui, bah écoutez, on a menti au peuple, on a menti le matin, le midi, le soir. » Et il y aura des extraits de cet enregistrement qui seront diffusés partout par ses adversaires politiques. Ça créera un mouvement très violent de manifestations dans les rues pour demander sa démission. Et ça tombera pile 50 ans après le soulèvement d'octobre 1956, 50 ans après. 50 ans, octobre 1956, c'est un soulèvement contre le communisme stalinien. Et là, 50 ans après, c'est un soulèvement contre l'économie financiarisée, le capitalisme financier, à 50 ans de différence. Alors, on pourrait se dire que cette prise de conscience, c'est des limites du néolibéralisme, de la domination des politiques imposées par le FMI, par l'Union européenne, tout ça, ça va profiter, on se dit voilà, à une gauche altermondialiste éclairée. Eh bien, pas du tout, tout ça, ça profite à Viktor Orban. Orban se positionne contre la domination financière, contre le pouvoir des multinationales, contre les diktats du FMI et de l'Union européenne, et il est ainsi, grâce à cela, confortablement élu au printemps 2010, en même temps qu'on assiste à une montée du parti d'extrême droite, le Jobbik, avec 16,7%. On a parlé de ce parti, évidemment, inquiétant. Alors aujourd'hui, Viktor Orban, on dit Orban Viktor en Hongrie, C'est l'homme fort. Il refait la Constitution, il impose son régime, il prend un tas de mesures liberticides, réactionnaires, ultra-conservatrices. C'est ce que dénoncent les médias, y compris nos médias français. C'est ce que dénonce l'Union européenne. Mais le vrai motif de cette indignation et de défense des grands principes et des grandes valeurs, c'est que Orban, on le sait moins, on le dit moins, a décidé de taxer les banques internationales et les produits financiers. Il a décidé de taxer les multinationales, dont les grandes entreprises françaises qui se sont gavées depuis des années et des années. Orban entend nationaliser les fonds de pension privés mis en place par les socialistes de son pays et même remettre en cause l'indépendance de la banque centrale hongroise, d'où colère de Bruxelles, d'où colère de Washington, mais qui, bien sûr, se dissimule derrière la défense des valeurs, les atteintes à la démocratie, à la liberté d'expression. Il y a là quelque chose d'assez ambigu. On pourrait se dire, ben après tout, voilà, on a compris, la Hongrie de Orban, c'est une sorte de mélange, c'est Philippe de Villiers, et puis... voilà, et puis un souverainiste, un pouvoir souverainiste comme ça, qui se mettrait un mélange un peu comme ça. Un chevènement. Chevènement et Philippe de Villiers, par exemple. Oui, sauf que les mesures qu'il prend par rapport à la finance, par rapport à la banque, par rapport à tout ça, c'est pour mieux favoriser le capitalisme hongrois. C'est pour mieux favoriser l'oligarchie hongroise. Et pour recentrer tout sur une classe moyenne hongroise avec laquelle il entend gouverner et dont il espère faire l'identité hongroise de demain. Une classe moyenne conservatrice, catholique, entreprenante. Voilà quel est son projet. On voit bien qu'il n'y a pas là un projet. Effectivement, ce n'est pas le fascisme redouté et annoncé très souvent. C'est autre chose qui peut tout à fait nous inquiéter en ce que c'est peut-être un laboratoire et une maquette, une avant-garde pour d'autres pays européens, dont un pays dans lequel, par exemple, nous vivons. On est ensemble jusqu'à 16h, c'est là-bas que j'y suis. Hongrie en marche arrière.
Que vajon a...
Chapelle. Que des hangars, pour la plupart vides.
Ils ont bouché les entrées.
C'est muré, ils ont muré. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont murés. Enfin, de hangars, c'est pas des ateliers. Il y a des ponts roulants qui sont complètement oxydés.
Je me rappelle des camions, des vélos, même les baignoires. On faisait l'exportation des baignoires, ça je sais.
Alors vous exportiez en URSS, c'est ça hein?
Les Russes, l'URSS importe tout, tout. Même si ce n'était pas de la bonne qualité, ils achetaient quand même. Et puis,
c'est-à-dire, tu croises les bras.
L'industrie a été achetée, alimentaire a été achetée par des Français, Bonduelle et Béguinset, comme sucre.
Ils ont liquidé,
Oui, c'était pour acheter des marchés.
Donc ils ont fermé.
Fermé, oui. Alors les paysans ne produisent plus de betteraves, de sucre. Nous avions 11 ou 12 fabriques de sucre. Maintenant, il y a une seule, Coba.
Et du coup, on a commencé, enfin vous avez commencé à importer du sucre.
Oui, le sucre devient de plus en plus cher.
Et en quelle année ça s'est passé, ça, cette razzia sur les, denrées ici, sur les entreprises?
Il y a 20 ans, ça a commencé. Ils ont réussi. Les premières 8 années, ils ont réussi à vendre. Les Hongrois ont réussi à vendre.
À vendre, ouais.
Avec la corruption, oui.
Ah,
oui, parce que ceux qui vendaient, ils en faisaient des bénéfices.
Qui vendait? C'était l'État qui vendait.
Oui.
Privatisation, c'est ce qu'on a appelé la privatisation.
Oui, la privatisation assez sauvage, oui. Oui, mais si on vend aux étrangers, alors c'est eux qui profitent. Oui.
On a trouvé un kochma authentique, couche.
Vous connaissez beaucoup de mots hongrois, seulement il faut rajouter couche. Botanique, couche. Esthétique, couche.
C'est facile en fait.
Oui, au moins je ne sais pas combien de mots, mais c'est tous les mots latins.
C'est sûr qu'on reste ici?
Il y a un client quand même. Il y a quand même un client. Qu'est-ce qu'il en pense, le client?
Ah, qu'il y a encore deux hommes là, dans la pièce.
On va demander à ce monsieur-là.
Il aimerait que vous posiez une question.
Oui, eh bien, comment ça se passe la vie ici dans le quartier? Vous êtes habitant du quartier, vous?
J'habite ici depuis 26 ans.
Hein.
Mais c'est bien d'habiter ici, mais enfin, c'est assez dur aussi.
Nincs munka lehetőség, na. Szóval nagyon kemény, és nagyon keveset fizetek nálunk, én Magyarországon. Megismertem mindent.
Je dis tout quand je dis qu'il n'y a pas de travail.
Úgyhogy.
Et même s'il y a du travail, les salaires sont trop faibles.
Mais il y a 26 ans, comment c'était le quartier?
Hát 26 évvel ezelőtt, Adamtól váltani, szerintem jobb volt.
La vie était meilleure que maintenant.
Én azt tudom mondani máskülönben, hogy ilyen szépen megtisztel bennünket egyet Magyarországra.
Si vous nous avez honoré déjà en venant en Hongrie, je peux vous dire que pendant l'époque communiste, il y avait du travail. On avait la possibilité de travailler. On travaillait, on vivait correctement. Ce n'était pas difficile de payer les gaz, l'électricité. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Moi, j'ai trois métiers. Je suis un travailleur spécialisé. J'ai trois métiers. Mais ou bien je trouve du travail, ou bien je ne trouve pas. Maintenant, je travaille, mais ça va durer 6 mois, 1 an.
Et
je suis marié, ma femme a 3 diplômes. Moi, je n'ai pas de diplôme, mais j'ai 3 métiers quand même. Et ma femme a 3 diplômes. Mais même comme ça, j'ai vraiment du mal et je dois réfléchir 2 fois avant de prendre une bière. Je suis perdue parce que vraiment, je ne vois pas du tout ce qui va nous arriver d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Il faut que je te dise, c'est que nous, ici à Budapest, ça va encore, et ceux qui ont du travail, ça va encore. Mais à la campagne, en province, il y a beaucoup de gens qui ont faim.
Moi, j'ai... Ott is vannak szegény emberek, de itt nálunk még többen vannak szegény emberek.
J'ai de la famille en France, alors je sais que là aussi la vie est difficile et qu'il y a des pauvres là aussi. Mais ici, c'est encore pire. C'est très, très dur.
C'est quoi vos trois métiers?
Hát kezdjük, van egy hideg burkoló, ami úgy jelenti a máskülön, hogy kell kérni, van egy könyves, ez elszatonkán van.
J'ai un permis pour poids lourd, je suis maçon, 9 heures, et j'ai eu mon diplôme en Allemagne de l'Est. À cette époque, on pouvait aller travailler chez eux, et puis je suis carreleur aussi.
Bah dis donc, ça fait 4 métiers ça, l'homme qui sait tout faire.
Oh, my God, so any 75,000 forint.
Là, maintenant, je gagne 75,000
forint. Et au bus-ballet, c'est 10,000 forint. Könyörgök, hogy hogy lehet megérni?
Alors que le carte d'abonnement pour le bus, hein, c'est 10,000 forint.
Et le logement, comment vous êtes logé?
Hát úgy, hogy a feleségnek van handiplán, és az általmáskor az én fizetés, az ő fizetése pont annyi, hogy nagyon-nagyon be kell osztani, na egy hónaptól másfél nagyon szépen be kell osztani.
Ben, je vis avec ma femme, nous avons donc deux revenus. Et avec ça, mais vraiment strict, strict, hein, on doit faire très attention.
Palinko.
Palinko.
Salute.
Une caisse de maladie pour la santé, comment vous faites?
Alors, tant qu'on a du travail, ça va. Parce que quand on est employé, l'entreprise doit payer la caisse de sécurité sociale. Là, ça va. Et puis après, c'est gratuit.
Ah, vous avez gardé ça?
Ouais,
c'est-à-dire la sécurité sociale n'a pas été démolie?
Et pour le moment, ça reste encore.
Il y a donc un héritage du temps communiste qui est resté.
C'est pour ceux qui ont du travail fixe et qui est déclaré.
Et la retraite, comment c'est? Comment ça se passe pour la caisse de retraite?
Hát most megemeltem, hogy Magyarországon ez a nyugdíjkorhatár, pontosan nem tudom, én 59 éves vagyok, és ugye most...
Ils ont augmenté l'âge de la retraite. Moi, j'ai 59 ans, je ne sais pas du tout comment ça va être.
Változik minden évben, hogy...
Parce que tous les ans, c'est repoussé, ça change.
Mert, hogy aki 50-ben született, azok elmertek, 60-as korban. 52-es, 53-as, akkor rá kell dolgozni.
Végig. Moi, j'ai toutes les années, parce que tout le temps, j'ai travaillé. Depuis 69, je travaille sans arrêt.
Minden nap dolgoztam még.
Tous les jours de ma vie, j'ai toujours travaillé. Et j'ai cotisé. Donc, moi j'ai des années. Mais l'âge de la retraite, c'est toujours 6 mois de plus. Et je ne suis pas sûre quand est-ce que moi je pourrais partir.
À quoi ressemblait le quartier il y a 26 ans au temps des communistes?
Your word.
Ah, c'est le meilleur.
Volt munkalehetőség, ha esetleg új volt, hogy ez nem tetszett, átment a más oldalra, volt munka.
Si, il y avait du travail. Si on n'aimait pas un travail, on pouvait changer, on pouvait aller chercher un autre travail.
Most itt Magyarországon kell elhelyezkedni.
C'est difficile en anglais maintenant.
Vous n'aviez pas de liberté, vous ne pouviez pas voyager, aller à l'étranger.
Nem igaz, ez megszáfolom más. Akiknek volt pénz, az el tudott utazni más különben.
Ça, c'est pas vrai du tout. Ceux qui avaient de l'argent, ils pouvaient voyager tranquillement.
Et
puis ma vie, c'est pas de voyager. Ma vie, pour moi, la vie, c'est important pour que je puisse nourrir ma famille, que je puisse chauffer la maison, que ma maison soit correcte. C'est ça qui est important pour moi, c'est pas de voyager. Hein. Avec ma femme, on vit juste à côté. Mais j'ai ma petite maison au bord du Danube et je pêche. Je fais la pêche.
Voilà.
J'y vais souvent.
Voilà, j'ai mon petit appartement ici dans la zone industrielle, dans mon HLM. J'ai ma petite Trabant et j'ai ma petite maison au bord du Danube. Et le dimanche, je vais à la pêche. C'est ça?
Igen. Hát van egy. Igen. Van egy lakása.
Igen, meg egy. Hát jó, hát ívásra nem alkalmas.
Ja, szó, boár, on peut pas le boire, hein? Ça, c'est.
C'est l'alcoolo bar qui dit qu'il faut pas boire l'eau du Danube. Il faut mieux boire l'eau de la Kalinka. C'est ça. Surtout ne pas boire le lit d'Anube.
Alors là, tu pourrais être malade. Ça te monte à la tête, tu perds les pédales.
Olyan az ország, mint a gyönyörű gyár, a révész utca végén kulcsra zárva. Emlékszik, mint a játszótéri pázsi, a felnőtt század kisgyermekkorára. Egyrészt téglából, egyrészt műanyagból, két holnyi föld világtól elhagyott. Kemény művészet kell, hogy összetartsa a gazdátlanul tengő anyagot. A plétető lejtője mennyi manzár, s legszebb a tornyok cukorsüvege. Ha kialudna egyszer a kemence, az utcai hidegre hűlne le. Felébreszthetném, mint vendég a portás, egy káromkodásával megölne. Csak alszik, mintha kisgyermek korában. Alszik, akármi lehet még belőle.
L'Ajos Sarkozy. C'est en ce moment l'Ajos Sarkozy qui nous joue du violon. C'est pas une blague, hein. On est vraiment dans le restaurant Carpathia et en face de nous, l'Ajos Sarkozy et son orchestre nous jouent une chanson.
Chino un polco.
Voilà, voilà un endroit où sans doute Nicolas Sarkozy ira lorsqu'il retournera dans son pays. Nicolas Sarkozy, c'est le même nom que le musicien qui anime ce soir-là l'orchestre Tzigane, le Gypsy Band. Oh, Carpathia, vous voyez, on ne se balade pas que dans les quartiers en ruine, populaire, ruine, etc. On va dans des endroits assez cossus, assez chic, avec nos amis et invités, Judith, que vous retrouvez, Marina, une jeune femme qui s'occupe de musique, et Esther. Et Esther va raconter ce qu'étaient pour elle ces années de socialisme, du goulag et de baraques gays dans ce camp. Nous, on est dans ce resto. Il y a un orchestre de Tzigane dans un décor magnifique, de rêve, de carte postale, formidable.
Et toi,
tu racontes tes souvenirs d'enfant. Alors, moi, je pense que tu es vraiment un produit de la propagande stalinienne, communiste, c'est-à-dire la pire des choses qui ait pu exister sur cette planète depuis qu'elle existe. C'est-à-dire que tu es en train de nous mentir. Tu nous fais croire que tu as 42 ans. Alors que tu as l'air d'en avoir 18. Tu vois. Alors, bon, on dit d'accord, c'est quelqu'un qui chacun ses fantasmes, chacun ses illusions. Mais tu vas plus loin, tu pousses le bouchon plus loin. C'est-à-dire que tu nous fais croire que tu as vécu cette époque du socialisme et du communisme ici en Hongrie. Et alors, en plus, tu vas encore plus loin, c'est donc bel et bien de la propagande. Tu nous fais croire que c'était pas si mal que ça, que tu as eu une enfance heureuse, que tu souffrais pas, non. Que tu ne souffrais pas outrageusement, que tu n'as jamais passé du temps dans des goulags, que tu n'as jamais été pendu, qu'il n'y a pas eu de procès, des blouses blanches contre toi. Il n'y a jamais, t'as pas été obligé de t'agenouiller devant une statue de Staline. On t'a pas fait de lavage de cerveau. Tu n'as pas souffert de ce qui a été le bloc soviétique. Donc c'est purement et simplement, t'es un agent de la propagande. Ça peut pas être autre chose que ça. Ça peut pas être autre chose. Moi, je viens du pays de la liberté. Je viens de la France. C'est comme l'Amérique, la France. C'est le pays de la liberté. C'est le monde libre. Et vous, vous êtes du côté, de l'autre côté du rideau de fer. Et toi, t'es un agent de la propagande pour me faire croire des choses comme ça. J'ai vu tout à l'heure, à ta façon de mentir sur ton âge, j'ai tout de suite vu que tu étais un agent de Moscou.
Alors que non. je ne me rappelle pas d'un engagement pris par rapport au parti communiste ou socialiste de l'époque. Mais par contre, j'ai toujours eu la possibilité d'apprendre ce qu'on peut enlever, je pense, aux enfants d'aujourd'hui. C'était cette ouverture au monde. On n'avait pas l'ouverture du monde. Peut-être je ne pouvais aller que dans les pays socialistes. Mais j'avais une ouverture au niveau de la culture. Finalement, je pense qu'il vaut bien plus que la possibilité de voyager, la possibilité d'avoir des jouets à je ne sais pas combien de forint. Moi, j'étais toujours très occupée. J'ai pu faire de la musique. J'avais l'impression que j'étais toujours écoutée, que tous mes professeurs faisaient attention à moi. Peut-être pas tous, mais au moins là où je voulais obtenir des gratifications, ils étaient bienveillants. Et tout simplement, on m'a laissé faire ce que je voulais. Je pouvais même changer d'instrument de musique. Parce que, je veux dire, j'ai tout essayé. J'ai eu la possibilité de tout essayer. J'ai essayé le violon.
Mais voilà.
J'ai essayé la guitare.
Là, voilà.
Je faisais partie d'un groupe pour les mathématiques. Après-midi, je faisais des mathématiques et je faisais des dessins. Et en plus, j'allais dans un groupe de philatélie aussi, où je pouvais m'occuper de l'histoire des timbres. Et j'allais aussi dans un groupe d'études historiques dans la vieille ville où j'habitais. Et c'était formidable parce que j'avais l'impression que non seulement on me prenait... on ne me prenait pas pour un enfant, mais on me prenait presque pour un chercheur dans ces groupes, par exemple. On me prenait pour un adulte, on nous parlait vraiment, on faisait de la recherche. Et j'ai pu aller dans un camp d'archéologie. Et voilà, c'est... Ce que je disais, c'est que cet aspect-là du socialisme, qui était cette politique éducative, il faut absolument étudier, au moins étudier. Je ne dis pas qu'il faut tout reproduire tel que c'était à l'époque, mais je pense qu'il y a eu plein de bonnes choses de fait.
C'est possible de dire ça maintenant, ici. Est-ce que les gens de ta génération, t'as 40 ans...
Non, personne ne le dit, il n'y a que moi.
Pourquoi les autres te disent « Mais non, tais-toi, c'était une horreur, c'était la stagnation, on s'ennuyait... »
Pourquoi ils disent ça? Peut-être c'est une sorte de revanche par rapport à ce qui s'était passé sous le communisme. Peut-être que à l'époque, ceux qui étaient par exemple religieux ressentaient la même chose et que maintenant c'est une sorte de revanche. Je ne sais pas. C'est vrai que dans ma classe, il n'y a que deux filles qui se sont levées quand ils ont demandé s'il y avait qu'est-ce qu'il y avait une appartenance religieuse. Je me rappelle qu'il y a deux pauvres filles villageoises qui se sont levées et c'était noté. Enfin, je veux dire que leur nombre était noté, c'est tout. Mais c'est vrai qu'on avait un regard à l'époque déjà, alors que j'avais quel âge? J'avais 12 ans, mais on les plaignait. On se disait, mais ils sont absolument pas éclairés, ces filles.
Esther, tes parents faisaient quoi?
Mon père était ouvrier, il travaillait à l'usine de viande. Et ma mère, elle était institutrice, mais à l'école maternelle.
Alors, et tes parents étaient au Parti communiste?
Non, pas tous les deux. Il y a mon père qui était communiste engagé, mais engagé secrètement parce qu'il ne m'en parlait jamais. Mais il avait son livret.
Son livret.
Son
sa
livret.
Carte. Son
sa
livret.
Carte. Sa D'accord, carte. Okay, oui, okay. Sa carte. Et il est allé faire des bêtises qu'on lui a dit. Par exemple, il était responsable des travaux sur le lac Ferteux parce que il allait travailler pour dessécher le lac.
Pour
dessécher le lac. Mais il fallait pas dessécher. Il paraît que c'était
une erreur écologique très grave.
Oui.
C'est ça.
Oui, donc ouais. Mon père, bon.
C'est un peu comme la mer d'Aral, hein, le lac Ferteux.
Oui. Bon, alors, il en était responsable parce qu'il y travaillait, c'est vrai. Il y croyait. Mais il ne m'a jamais dit qu'il fallait que j'y croie, moi aussi. Uh-huh. Et d'ailleurs, on ne parlait pas beaucoup de ça. Tout simplement, il était. Je pense qu'il était engagé du côté. Engagé comme ma grand-mère, comme toute ma famille. Je pense qu'ils étaient engagés au niveau humain. Pour eux, ce qui comptait, c'est qu'il n'y ait pas de retour de ce que ma mère a vécu à l'Est, sous le régime, de ce que ma grand-mère a vécu sous le régime Horthy à l'Est.
Horthy, c'est-à-dire le fascisme hongrois.
Oui, oui. Et ils étaient pour que ça ne puisse pas se reproduire. Mon arrière-grand-mère est l'exemple parfait de la femme soumise, de la travailleuse qui travaillait jour et nuit. Et elle continuait dans la famille, elle reproduisait le schéma, ce qu'elle a fait pendant 50 ans. Et ça, je peux dire que moi-même, que même ma mère a hérité de cette soumission. Et c'est un état d'esprit qu'on garde pendant des générations et des générations. Et je ne veux pas que ça se répète. Et je ne veux pas que ça revienne. Et je suis tout aussi engagée, s'il le faut, de ce côté. Juste pour dire non. Pour dire non. Je veux pas de gens qui servent les autres. Je veux pas de bonnes. Je veux pas de ça parce qu'on m'a dit que c'était pas possible, que ça n'existait pas. Et ça n'existait pas en Hongrie à l'époque, quand j'étais petite. Il n'y avait pas de bonnes. Il y avait personne qui desservait une autre personne qui était dans la servitude. Et on pouvait travailler. C'est vrai que, bon, on était dans la servitude par rapport à un système. Mais on ne dépendait pas d'une personne, de la bonne volonté d'une personne. Personne ne nous regardait avec les yeux bienveillants. « Ah oui, tu as bien fait le ménage, merci beaucoup. Tu as bien gardé les enfants, merci beaucoup. » Ou si un enfant qui se plaint, « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?»« Ben, vous êtes, ne revenez plus, vous êtes licencié. » C'est comme ça. Ce n'était le cas que mon arrière-grand-mère. Parce qu'elle, elle vivait comme ça. Et moi, je suis au bout de je ne sais pas combien de générations, j'arrive à me comporter normalement. Mais au bout de... moi, j'ai l'impression qu'il me fallait du temps aussi d'enlever tout ce qui était de ce côté servile, de cette attitude qui se mettait toujours en arrière. Donc, voilà.
Alors... Ce que tu as oublié de nous redire là, c'est que ta mère était monarchiste. Ton père était au Parti communiste et ta mère était monarchiste.
Ah oui. Non, mais c'était juste parce que ma mère a connu des gens qui aidaient ma famille pendant la guerre et qui faisaient partie de la noblesse hongroise, mais de la vraie noblesse, la noblesse de cœur. Et donc, mes parents ont gardé pendant longtemps le bon souvenir de ces gens. Et puis, je pense qu'ils étaient monarchistes peut-être aussi parce qu'ils n'avaient pas... ils n'ont pas réalisé ce qui s'était vraiment réellement passé avec mon arrière-grand-mère, par exemple.
Mais plus largement, ton époque aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement, la crise, les difficultés sociales...
Moi, je loue l'appartement à une famille qui ont beaucoup de difficultés, qui ont deux enfants, qui ont du mal à chauffer. Je suis contente de pouvoir enfin, de, au moins, si je dois donner de l'argent déjà pour le loyer, au moins que ce soit pour des gens à qui ça sert aussi. Parce qu'ils ont aussi des difficultés, même s'ils ont hérité de cet appartement, ils l'ont. Mais ils doivent vivre avec les deux enfants ailleurs et ils ont beaucoup de mal. Il y a des gens qui sont au chômage depuis combien de temps, on ne peut même pas compter. Et aussi, il y a des femmes tziganes qui vivent dans mon quartier, qui me demande à chaque fois s'il n'y a pas de travail si je connais des gens qui ont besoin de ménage ou des choses comme ça. Et c'est régulièrement dans les bus aussi, on me le demande. Et pour qu'on en arrive à ça, qu'on cherche dans le bus du travail comme ça, je trouve que c'est... c'est triste.
Elle s'appelle Esther Goldnofer. Merci à elle, merci à tous. Merci à Judith Morvin, Cathy Lederer, Corentin Léotard, 26 Abo. C'était un reportage avec Antoine Chao à Budapest, dans le quartier de Sespel. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, ou sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission. Et puis vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Renan Mahé, Bertrand Chemeton et Franck Aderer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la page si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Autour de nous, de nombreuses personnes sont touchées par le cancer, par la maladie d'Alzheimer, par de graves problèmes cardiaques. Comment faire pour combattre toutes ces maladies? Moi, j'ai choisi de donner à la Fondation pour la recherche médicale. Elle s'investit dans tous les domaines de la recherche. Elle sait où sont les besoins.
Depuis plus de 60 ans, la Fondation pour la recherche médicale agit pour le développement d'une recherche de pointe au service de tous les malades. Parce que toutes les maladies doivent bénéficier de la recherche, faites un don à la Fondation pour la recherche médicale sur frm.org.
Dans son livre Parole, parole, Frédéric Pommier décortique l'éthique de langage de nos politiques.
La hollandonormie, affection se manifestant par l'usage répété du mot « normal ». La sarcocassite, affection se manifestant par l'usage de l'expression « casse-toi pauvre con ». La zadiguévolture, affection se manifestant par l'incapacité à citer correctement les titres des livres.
Parole, parole, formule de nos politiques, de Frédéric Pommier, une coédition France Inter.
Voilà, excellent, Pommier. On se retrouve demain à 15h pour la base, j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Dominique Delaroy. Salut!
Ça s'agite sur Twitter depuis que plusieurs comptes satiriques ou parodiant Nicolas Sarkozy ont été suspendus à la demande de l'équipe internet du candidat sortant pour usurpation de l'identité du président. Les réactions sont nombreuses sur le réseau social. Dans un mouvement sans précédent en France, le réseau Twitter a suspendu 4 comptes, s'indigne l'association Internet sans frontières, qui se dit préoccupée par la censure politique opérée par Twitter. Pour Numérama, site d'information consacré au numérique, il s'agit plus probablement de dénonciations massives. Si elles sont suffisamment nombreuses, le compte est automatiquement suspendu par Twitter, explique Numérama. Dominique Antoine, conseiller éducation de Nicolas Sarkozy à l'Élysée de 2007 à 2009, annonce qu'il votera pour François Hollande à la présidentielle. Il s'en explique dans Le Monde, daté de mardi. Dans le domaine éducatif, que retiendra-t-on de ce quinquennat? 80 000 suppressions d'emplois, la fin de l'année initiale de formation des maîtres, la semaine de 4 jours à l'école primaire, même si l'on place sur l'autre plateau les évaluations généralisées des compétences des élèves, le bilan est maigre et déplore Dominique Antoine, alors que François Hollande, qui a promis 60 000 créations de postes, fera de l'éducation une priorité nationale. Ce week-end, à l'inverse, c'est Claude Allègre, l'ancien ministre socialiste de l'éducation nationale, qui a annoncé qu'il votera Nicolas Sarkozy. Dominique Strauss-Kahn est convoqué demain matin à Lille pour y être interrogé. interrogé dans le cadre de l'affaire dite du Carlton. Il devrait être placé en garde à vue par les enquêteurs de la direction interrégionale de la police judiciaire et pourra être assisté par son avocat. Les policiers cherchent à éclaircir les conditions dans lesquelles l'ancien patron du FMI a rencontré des prostituées à Paris, mais également à Washington en 2010 et 2011. Les rebelles soudanais du Darfour annoncent avoir capturé 52 soldats de la MINUAD, la force de maintien de la paix mise en place par l'ONU et l'Union africaine de la région. Nous les détenons parce qu'ils sont entrés sans autorisation sur notre territoire, a expliqué l'un des principaux groupes de la rébellion au Darfour. L'armée syrienne resserre son étau sur Hama et Pilon Homs, deux foyers de la contestation. La ville de Hama, dans l'ouest de la Syrie, est coupée du reste du pays. Les forces de sécurité y ont dressé des dizaines de barrages pour isoler les quartiers. Plus de téléphones fixes ou portables, plus d'Internet. Dans le même temps, les forces gouvernementales poursuivent le siège de plusieurs quartiers de Homs. Des renforts de troupes sont arrivés hier. D'autres sont en route aujourd'hui, ce qui fait craindre aux militants un assaut final contre les quartiers rebelles. C'est la section criminelle de la PJ de Seine-Saint-Denis qui a été chargée de l'enquête ce matin. Un homme a retrouvé son épouse et ses deux enfants tués d'un coup de fusil de chasse au domicile familial à Livry-Gargan. Il dit s'être couché hier soir sur le canapé et avoir découvert les corps à son réveil dans la chambre des enfants. Il a été placé en garde à vue.
Les couleurs musicales d'Inter.
The Deluxe Band. Good
morning. 4 heures de programme musical non-stop.
Tu me lâches maintenant.
Y'a le râteau du mari, c'est ma femme, t'es gentille. Le râteau du hérisson, ça pique mais c'est trop mignon.
Les 80 nouveautés du moment, d'accord, sélectionnées par France Inter. Les couleurs musicales d'Inter. En partenariat avec Deezer. À écouter dès maintenant sur franceinter.fr. France Inter. La différence.
Et à tout juste 16h04, le carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Ce soir, grand événement pour les amoureux de la musique classique, les victoires de la musique classique, donc à la télévision, France 3 à 20h35 et de même sur France Musique. Alors il y aura des personnalités tout à fait magnifiques, comme souvent, et par exemple Nathalie Stutzmann, qui est un contralto, donc une voix grave féminine, bien connue, et elle dirige en plus, ce n'est pas tout à fait nouveau, parce qu'elle a étudié la direction quand elle était jeune, elle a reçu les conseils de Seiji Ozawa, entre autres, et puis elle a fondé son propre orchestre il y a peu, et c'est déjà un orchestre superbe qu'on va entendre tout de suite, tout seul si j'ose dire, parce que la voix interviendra dans l'extrait suivant. Il s'agit de l'Olympiade de Vivaldi maintenant, avec un extrait de la Symphonia, c'est-à-dire de l'ouverture, et c'est dirigé de main de maître, je sais pas, il n'y a pas de féminin dans ce sens-là, on va pas dire maîtresse quand même, par Nathalie Stutzmann qui est venue dans cette émission expliquer le bonheur nouveau qu'elle trouve à diriger tout en chantant.
Thank you.
Allegro de l'Olympiade, opéra d'Antonio Vivaldi, interprété par l'Orfeo 55, dirigé par Nathalie Stutzmann. Et maintenant, on va l'entendre avec son orchestre qui a été fondé il y a 3 ans. Et il y a un air un peu tragique, un peu angoissé. L'héroïne chante « Je gémis et je tremble, le jour me paraît sombre, autour de moi grouillent les larves, j'ai 1000 furies dans mon sein ».
Un incontro e faremo, e faremo. Fosto mi sembrerò, mi sembrerò. O cento larve intorno, o cento larve intorno, o mille furiezze. O cento larve intorno, fosco mi sembrerò, o mille mille furiezze, o mille mille furiezze. Cento in punto e faremo, fosco mi sembra il giorno, fosco mi sembra il giorno, o cento l'arvi intorno, o cento l'arvi intorno, o mille furie insene, o cento, cento l'arve, o cento l'arvi intorno, cemo, cemo. O mille mille furie insene, o mille mille furie insene. Con la sangue la faccia, ma leggera il petto, ben più ni venaretto.